Uni Elang Donizi. Voici le journal complet. Le président Prabowo Subianto estime que l'Indonésie n'emportera plus de carburant dans les 5 prochaines années, conformément aux efforts du gouvernement pour parvenir à l'indépendance ou à l'autosuffisance énergétique. C'est ce qu'a déclaré le président Prabowo lors de l'inauguration du projet stratégique national d'électricité centré sur la centrale hydroélectrique au PLTA de Jati Gede dans la région de Sumedang dans la province de Java Occidental.
Memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100%
swasembada. En effet, nous devons être autosuffisants en énergie et notre objectif sera de 100%. Je crois que dans un avenir pas trop longtemps, nous n'emporterons plus de carburant de l'étranger. Je suis sûr que dans 5 ans, nous n'emporterons plus de carburant. Selon le président Prabowo, la sécurité énergétique est importante et nécessaire pour que l'Indonésie puisse réaliser la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Le chef de l'État estime que l'Indonésie est un pays cohérent et avancé dans la réalisation de la transformation vers une énergie propre et renouvelable. Le président Prabowo Subianto a inauguré 37 projets stratégiques nationaux d'électricité couvrant 26 centrales électriques d'une capacité totale de 3,2 gigawatts ainsi que 11 réseaux de transmission et sous-stations dans 18 provinces. Outre la centrale électrique, ce projet comprend également la construction d'un réseau de transport de 739,71 km de circuit KMS et d'une sous-station d'une capacité de 1740 mégawatts ampères ou MVA. Le président Prabowo a souligné que cette infrastructure constitue une base importante pour soutenir la transformation économique vers une nation industrielle. Le ministre de la Culture, Fadlizon, a nommé le frère cadet du président Prabowo Subianto ainsi que l'homme d'affaires et philanthrope Hashim Joyoadikusumo au poste de président du conseil d'administration des musées et du patrimoine culturel du ministère indonésien de la Culture. La remise du décret nommant Hashim a eu lieu au Musée national d'Indonésie lundi 20 janvier 2025. Dans son discours, Fadlizon a espéré que Hashim pourrait former un conseil d'administration solide, car selon lui, des partenariats entre le gouvernement et le secteur privé étaient nécessaires dans la gestion des musées et du patrimoine culturel. J'espère que M. Hashim formera un conseil d'administration très solide, parce que cela nécessite un partenariat public-privé. Il faut que ce soit un effort de toutes les parties prenantes, de toutes les parties. Cela ne peut pas venir uniquement du gouvernement central, ni uniquement du gouvernement régional ou du gouvernement du district, de la ville, mais cela doit également venir du secteur privé, des entrepreneurs. De plus, les entrepreneurs qui ont démarré leurs activités en Indonésie. Je pense que nous espérons qu'ils pourront contribuer à l'avancement de la culture indonésienne. Fadlizon a ajouté que les membres du conseil d'administration du musée et du patrimoine culturel devraient être des entrepreneurs et des philanthropes qui se soucient de la culture et de la civilisation indonésienne. Il espère également qu'avec ce conseil, le travail du ministère indonésien de la culture sera facilité, notamment pour accélérer le progrès culturel dans le domaine des musées et du patrimoine culturel. La bourse indonésienne du carbone, ou IDX Carbone, cible un volume de 100 unités de carbone de 500 à 750 000 tonnes d'équivalent CO2 en 2025. Le président directeur de la Bourse d'Indonésie, BEI, Iman Rahman, après le lancement du commerce international du carbone au bâtiment BEI à Jakarta, lundi 20 janvier, a déclaré que l'objectif comprend le commerce national et international du carbone. Il a déclaré qu'IDX Carbone vise un total cumulé de 200 utilisateurs de services en 2025. Pendant ce temps, pour la valeur cible des transactions d'essence de carbone en 2025, il a déclaré qu'il était encore nécessaire d'examiner les prix des unités de carbone échangées pour déterminer cet objectif. On sait que l'Indonésie a officiellement lancé le commerce international du carbone, marqué par un lancement sur l'IDX à Jakarta lundi 20 janvier dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs climatiques nationaux. Tang Dang Setang, le ministre de l'Environnement en tant que chef de l'Agence de contrôle de l'environnement, Hanif Faisal Nurofik, a déclaré que cette mesure avait été prise pour soutenir une action concrète visant à atteindre les objectifs climatiques de l'Indonésie, comme indiqué dans le document de contribution déterminé au niveau national, NDC. Le ministre du Commerce, Budi Santoso, a déclaré que les exportations totales de l'Indonésie avaient atteint 264,70 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 2,29% par rapport à l'année précédente. Dans un contexte économique difficile, les exportations des pétrolières et gazières ont également enregistré une augmentation de 2,46% avec une valeur atteignant 248,83 milliards de dollars américains. Le secteur agricole a contribué à la plus forte augmentation avec une croissance de 29,81%, suivi du secteur industriel qui a augmenté 5,33%. Le ministre du Commerce, Budi Santoso, a expliqué dans sa déclaration lundi 20 janvier qu'en termes de région, l'Europe de l'Est a enregistré la plus forte croissance des exportations non pétrolières et gazières, augmentant de 113,92%, suivi de l'Australie et des États-Unis. Le ministère du Commerce a révélé que l'objectif d'augmentation des exportations de produits indonésiens en 2025 est de 16,1%. La directrice générale du développement national des exportations au ministère du Commerce, Fajarini Puntodewi, a déclaré à Jakarta lundi 20 janvier que son parti prépare une stratégie pour soutenir l'augmentation des exportations en ouvrant l'accès au marché aussi largement que possible. Jusqu'à présent, son parti mène une série de négociations pour y parvenir. Une autre mesure prise est d'accroître la coopération au sein du pays afin que les produits nationaux puissent répondre aux exigences et pénétrer les pays de destination pour l'exportation. Il a ajouté qu'en général, le ministère du Commerce cible également le pays du Golfe, l'Australie, comme pays de destination pour accroître les exportations de produits indonésiens vers l'Afrique du Sud. Les gouvernements britanniques et indonésiens ont lancé lundi à Jakarta un projet de collaboration en matière d'infrastructures durables appelé Melaju pour encourager le développement en Indonésie tout en renforçant les efforts pour relever les défis du changement climatique. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Dominique Jeremy, a déclaré que Melaju s'appuie sur des collaborations existantes telles que UK Pact et le programme Future Cities qui reflètent un engagement à connecter les communautés, à permettre la prospérité et à relever des défis urgents tels que le changement climatique. Le projet Melaju est conçu autour de quatre piliers principaux, à savoir l'élaboration de politiques, le développement et la mise en œuvre des projets, la mobilisation financière et d'investissement, ainsi que la collaboration et le partenariat. La ministre britannique de l'Indo-Pacifique, Catherine West, était également présente lors du lancement et a salué le projet comme une preuve de l'engagement de son pays à soutenir les priorités de l'Indonésie, notamment la croissance durable, l'innovation urbaine et une transition énergétique juste.
Thank you.
C'est Judith Berg, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre Réunion du Forum économique mondial de Davos. La 55e réunion du Forum économique mondial WEF est organisée de nouveau à Davos en Suisse du 20 au 25 janvier 2025 pour discuter des problèmes mondiaux et des sujets d'actualité autour de la géopolitique et de l'économie mondiale. Le Forum mondial, qui était initialement une réunion d'hommes d'affaires et d'économistes, est aujourd'hui devenu une organisation internationale qui rassemble un certain nombre de pays, d'entreprises, d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de personnalités politiques. Le fondateur, en tant que président du WEF, Klaus Schwab, a déclaré que la réunion de Davos était unique, réunissant un large éventail de décideurs issus du gouvernement, des entreprises et de la société civile au début de l'année pour relever les défis d'un monde en pleine transformation. Lors de la réunion du WEF 2025, le gouvernement indonésien était représenté par le ministère de l'Investissement et des Affaires en aval en tant que chef du Conseil de coordination des investissements, BKPM, en ouvrant le pavillon indonésien. Le ministre de l'Investissement et des Affaires en aval en tant que chef de BKPM, Rosan Ruslani, a déclaré que la participation à l'événement WEF 2025 est un effort pour renforcer l'image de l'Indonésie en matière d'investissement durable. Pour cette raison, son parti a facilité la mise en place de pavillons et il est devenu l'un des orateurs de la réunion économique. La présence d'Indonésie à WEF 2005 est une forme de participation aux discussions mondiales à laquelle l'Indonésie participe pour relever les défis auxquels elle est confrontée ensemble. La présence du ministère de l'Investissement et des Affaires navales, BKPM, à Davos est également soutenue par la participation de la Chambre de commerce indonésienne, Kadin, qui porte un certain nombre de nombreuses missions. Le président de Kadin, Anindya Novian Bakri, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi dernier que l'une des missions de Kadin était d'aider le gouvernement à attirer autant d'investissements que possible dans le pays. L'Indonésie ouverte aux affaires. Même, Kadin participe depuis 10 ans au Forum économique de Davos, outre que l'économie, selon Anindya Bakri. Kadin fait également la promotion du potentiel touristique de l'Indonésie auprès des participants présents dans le but d'investir et de coopérer mutuellement bénéfique entre les parties étrangères et l'Indonésie. Le WEF peut sembler à première vue comme une réunion annuelle des dirigeants mondiaux et des blocs économiques ou comme d'autres réunions de niveau international. Cependant, les effets qui en ont résulté ont grandement influencé les décisions internationales, comme le processus de paix israélo-palestinien avec la rencontre des dirigeants de l'OLP, Yasser Arafat, et du premier ministre israélien. C'est pourquoi presque tous les événements du WEF sont suivis par de nombreux dirigeants d'État, politiciens, économistes et même des chefs d'entreprise influents du monde entier. La présence de Kadin au Forum WEF 2025 porte non seulement une noble mission, mais constitue également un pont pour le programme Asta Cita du gouvernement indonésien. Comme l'a déclaré le ministre Rosan Ruslani, la réunion du WEF est une excellente occasion de promouvoir les opportunités d'investissement en Indonésie auprès des investisseurs mondiaux présents dans un seul forum. C'est pour cette raison qu'il faut maximiser le temps nécessaire pour rencontrer le plus grand nombre possible d'investisseurs potentiels qui partagent la même vision que l'Indonésie et qui favorisent l'investissement durable. En outre, il est également prévu de renforcer la décision de l'OMC sur la question de l'huile de palme indonésienne contre l'Union européenne concernant la discrimination à l'exportation. Espérons que ce que Kadin promeut au Forum du WEF aura un impact positif sur la croissance économique et commerciale de l'Indonésie. On espère que Kadin pourra représenter les besoins du cabinet rouge et blanc devant les forums mondiaux. En outre, lors de la réunion du WEF de 2025, le président élu des États-Unis, Donald Trump, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le premier ministre malais, Anwar Ibrahim, était présent à Davos. C'est Julie Talk, c'était le commentaire pour ce soir. C'est véritable bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 janvier 1985, bombe du temple de Borobudur. 9 bombes ont explosé au temple Borobudur à Magelang dans le centre de Java le 21 janvier 1985. 9 stupas et 2 statues de Bouddha ont été détruits par les explosions. Après une enquête, la police indonésienne a arrêté deux frères, Abdul Qadir Bang Ali Al-Habshi et Hussein Bang Ali Al-Habshi, accusés d'être les auteurs de l'attentat. Passons l'histoire aujourd'hui avec l'événement sur Ibrahim Rugova, premier président du Kosovo, le 21 janvier 2006. Ibrahim Rugova est le président du Kosovo. C'est une icône qui a motivé les Albanais de souche à obtenir leur indépendance de la Serbie. Il est également le chef du plus grand parti politique du Kosovo, la Ligue démocratique du Kosovo. Rugova a été élu à 2 reprises président du Kosovo, 1992 à 2000, 2002 à 2006 et a été l'architecte d'une décennie de résistance passive à la domination serbe depuis 1989. Rugova a survécu à une tentative d'assassinat le 15 mars 2002. Il a souffert un cancer du poumon en septembre 2005 et est décédé le 21 janvier 2006. Terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 janvier 2008, la langue Eyak s'est éteinte. La langue Eyak était autrefois parlée par de l'embouchure de la rivière Copper en Alaska. Marie Smith Jones fut la dernière locutrice de la langue Eyak. Sa mort le 21 janvier 2008 a marqué l'extension de la langue Eyak. Le déclin du nombre de locuteurs de la langue Eyak est dû à divers facteurs. L'un d'entre eux est la diffusion de l'anglais et la pression sur les langues maternelles. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Ini janjiku, janjiku.
selamanya.
Tetap begitu, apapun terjadi.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée Président Prabowo Subianto vise l'indépendance énergétique de l'Indonésie dans les 5 prochaines années. Avec moi, Audrey. Ce jeudi, le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, a inauguré 37 projets électriques nationaux stratégiques dans 18 provinces. Le projet énergétique comprend 26 centrales électriques d'une capacité totale de 3,2 gigawatts, ainsi que 11 lignes de transmission et sous-station. L'événement d'inauguration s'est déroulé dans la zone de la centrale hydroélectrique de Jati Gede, dans la régence de Sumedang à Java occidental, le lundi 20 janvier 2025, qui était connecté virtuellement à d'autres emplacements. Le chef de l'État a exprimé sa fierté pour cette grande réalisation. Il a également exprimé sa gratitude à tous les partis impliqués dans la réalisation de ce projet. Outre la centrale électrique, le projet comprend également la construction d'un réseau de transport de 739,71 km de circuit et d'une sous-station d'une capacité de 1740 mégavolts-ampères. Le président a souligné que cette infrastructure constitue une base importante pour soutenir la transformation économique vers une nation industrielle. Le chef de l'État a expliqué que l'Indonésie dispose de ressources naturelles assez importantes et qu'elle a désormais la capacité de transformer ce secteur. En outre, le président Prabowo Subianto vise également l'indépendance énergétique dans les 5 prochaines années, notamment en arrêtant les importations de fioul ou bbm. Le président Prabowo a dit:
Memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita, kita akan 100%.
En effet, nous devons être autosuffisants en énergie et notre objectif est d'être autosuffisants à 100% en énergie. Je crois que dans un avenir, pas trop lointain, nous n'importerons plus de BBM mazout de l'étranger. Je suis sûr que dans 5 ans, nous n'importerons plus de carburant. Le président est optimiste quant au fait que malgré d'énormes défis, à la fois naturels et une concurrence féroce, l'Indonésie continue de progresser pas à pas pour atteindre l'objectif de développement économique de 8%. Bonjour, je vais t'arrêter tout, mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons présenter le magazine culturel intitulé Le Café Godok. Pour les amateurs de café, l'Indonésie est le paradis du café. Ici, vous pourrez déguster différents types de café aux saveurs distinctives. L'un d'entre eux que nous vous recommandons est le café Godok. Sa présentation unique et son goût distinctif rendent ce café très populaire. Récemment, cette icône culinaire typique de la région de Ciamis a également été officiellement désignée comme le patrimoine culturel immatériel au niveau de la province de Java occidentale. L'unicité du café Godok par rapport aux autres cafés, c'est la façon dont il est servi. Les grains de café ne sont pas moulus ni ou laissés intacts. Les grains de café entiers sont torréfiés jusqu'à ce qu'ils soient légèrement noirâtres. Mettez-les ensuite dans de l'eau bouillante, du sucre de palme et du lait de coco, ou souvent appelé chipati. Certains habitants de Ciamis l'appellent golondong café. En sundanais, golondong signifie entier, ce qui fait référence au grain de café laissé entier. Lorsqu'il est dégusté, il a un goût sucré, savoureux et amé provenant des grains de café qui doivent être mâchés. Selon l'histoire de la communauté locale, le café Godok existe depuis le XVIIe siècle. Ce café est servi lors de célébrations ou d'événements de remerciement. Ce café est généralement bon à boire tout en savourant des collations sucrées comme le gâteau apem, le papaïs, c'est le gâteau traditionnel à base de farine de riz et de sucre de palme, le tapé et les aliments. En particulier sur le site sacré de Lengkong Ciamis, il existe un rituel spécial qui sert du café Godok à chaque tradition de Mupunjung, au mois de Muharram. Dans cette tradition, le café Godok est apporté sur un site sacré, un guise d'offrande, puis la communauté effectue le tawassul, c'est la prière en utilisant un intermédiaire. Après cela, il est bu avec d'autres offrandes alimentaires. Chers amis, c'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Tadi sayang, oh, katakan. katakan sejujurnya. Bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin tak jelas begitu saja, sayang. Ku dicaci dan dimaki. Tapi tak sejalan bersama, tapi tak berdua. Berkata tapi tak bermakna, berjanji tapi tak setia. Katakan, katakan sejujurnya. Bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin tak jelas begitu saja, sayang. Ku dicaci dan dimaki. Bila ingin pisah, katakan saja. Katakan, katakan sejujurnya. Bila ingin pisah, katakan sekarang. Ku tak ingin tak jelas begitu saja.
Plus tard, c'était la 13e chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir! On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, et la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun. À l'aéroport d'Iskandar, Pangkalan Bun. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. À l'aéroport d'Iskandar Pangkalan Bun. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Naomi, une guide touristique à Pangkalan Bun, dans la région de Kota Waringin occidentale. Chris a répondu à la question de Naomi en l'informant de la quantité de bagages qu'elle transportait. Bonne écoute.
Selamat siang, Naomi ya.
Iya Pak Chris, saya Naomi.
Selamat datang di pangkalan, Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulées Di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. À l'aéroport d'Iskandar Pangkalan Bun. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Hanya. Hanya, seulement ou ne que. Membawa. Membawa, apporter. Sedikit. Sedikit, un peu. Barang. Barang, chose. Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. Je n'ai apporté que quelques affaires. Ou bien, quelque chose. Selamat siang. Selamat siang, bonjour. Selamat datang. Selamat datang, bienvenue. Di Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun. A Pangkalan Bun. Apakah? Apakah? Est-ce que? Perlu. Perlu, avoir besoin de. Bantuan. Bantuan, aide. Porter. Porter, porteur. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu l'expression Saya hanya membawa sedikit barang. Saya hanya membawa sedikit barang. Je n'ai apporté que quelque chose. Dans ce discours, il y a l'expression sedikit barang. Sedikit barang, quelque chose. Le mot sedikit, sedikit, un peu ou quelque, dans cette expression, il sert à marquer le mot barang. Barang, chose. Le mot sedikit, sedikit, un peu ou quelque, dans le contexte de la conversation, cela signifie que la quantité de choses que Chris a apportées n'était pas grande ou petite. Chers amis, un autre exemple. Allons écoutons un autre exemple d'utilisation du mot sedikit. Sedikit, un peu. Maaf, saya hanya punya sedikit uang. Maaf, saya hanya punya sedikit uang. Désolé, je n'ai qu'un peu d'argent. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. L'hôtel propose uniquement un petit menu pour le petit déjeuner. Chers amis, Pangkalan Bun est le nom de la capitale de la région de Kota Waringin Occidental, de la province du Kalimantan Central. Pangkalan Bun est l'entrée de plusieurs sites importants du Kalimantan Central, tels que le parc national de Tanjung Puting en tant que lieu de réhabilitation des orang-outans et Tanjung Keluang en tant que lieu de reproduction des tortues. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bon écoute.
Selamat siang, Naomi ya.
Iya Pak Chris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Thank you. begitu cara matahari berseri. Tapi kenapa hatiku gelap bagai malam?
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous parle d'une chanson intitulée Palembang Elok, chantée par Tourisman. La chanson Palembang Elok a été créée par Tourisman et produite par l'Office de la culture et du tourisme de la ville de Palembang. Cette chanson raconte de la belle, prospère et glorieuse ville de Palembang. On décrit que Palembang est une ville célèbre pour sa grandeur historique du royaume de Sriwijaya. Les paroles de Palembang Elok contiennent un message important pour continuer à préserver les arts et la culture de la ville de Palembang. Bon, chers auditeurs, voici Palembang Elok de Tourisman. Bonne écoute!
Dan peninggal yang tetap terjaga.
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id. and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.
This is Voice of Indonesia with the news. First, the headline. Hashim Joyo Hadikusumo named Head of Advisory Board for Museums and Cultural Heritage. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership further strengthens Indonesia's position. Now the news in detail. Indonesian Minister of Culture Fadli Zon has appointed Hashim Joyo Hadikusumo, a well-known businessman, philanthropist, and younger brother of Indonesian President Prabowo Subianto, to lead the Museum and Cultural Heritage Advisory Board. The official announcement was made during a ceremony at the National Museum of Indonesia on Monday, January 20. In his speech, Minister Fadli Zon expressed confidence in Hashim's ability to bring together a strong team, emphasizing the importance of collaboration between the government and private sectors to preserve and promote Indonesia's cultural heritage. We hope Mr. Hashim can create a solid and effective board. Managing museums and cultural heritage isn't something the government can do alone. It requires everyone's support, from local and central governments to private businesses and entrepreneurs, especially those who've gained so much from Indonesia's resources. It's time for them to give back and help elevate our cultural legacy. Fadli Zon added, the advisory board will include business leaders and philanthropists who are passionate about Indonesia's culture and history. He believes the partnership will play a key role in speeding up improvements in museums and cultural sites across the country. Indonesia